Bonsoir. Dans un communiqué rendu public ce lundi à Kinshasa, la conférence épiscopale nationale du Congo Senko en sigle demande la tenue des élections provinciales au premier trimestre 2015. La Senko s'est dit préoccupée par le dépassement du mandat des députés provinciaux et des sénateurs, ainsi que la crise de légitimité observée dans les entités territoriales et urbaines. Quelle analyse faire de cette déclaration? Nous en parlons avec l'abbé Léonard Saint-Eddy, il est secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko en sigle. Bonsoir monsieur l'abbé Léonard Saint-Eddy.
Bonsoir.
Professeur Dominique Verte, il est expert en questions électorales. Bonsoir professeur Dominique Verte.
Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs.
Et lui, il est au téléphone, c'est le professeur Félicien Kabamba, il est professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Plusieurs réactions, parmi lesquelles celle de Matumaini Franklin de Bukavu au sud Kivu. La CENI n'y est pas pour beaucoup, car sans les moyens et la volonté politique, la CENI ne peut pas faire des miracles. Tout est fonction de la volonté politique. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Dans un communiqué rendu public ce lundi à Kinshasa, la conférence épiscopale nationale du Congo considère que le cycle électoral 2013-2016 constitue un enjeu fondamental et décisif pour la construction d'un Congo démocratique apaisé et porteur de nouvelles possibilités de développement. La CENCO est préoccupée par le dépassement du mandat des députés provinciaux et des sénateurs, ainsi que par les dysfonctionnements institutionnels et la crise de légitimité observée dans les entités territoriales et urbaines. C'est pourquoi les évêques recommandent de l'appurement des arriérés électoraux comme gage de l'assise de la démocratie et du renforcement de la cohésion nationale. Il demande la tenue des élections provinciales au premier trimestre de 2015. On écoute le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Léonard Saint-Eddy, au micro de Innocent Olenga.
La première demande, c'est faire vraiment l'appurement de ce qui restait encore des élections de 2011, notamment au niveau des députés provinciaux et des sénateurs. Les évêques sont préoccupés par ce mandat qui perdure. Les évêques disent que l'option ou l'hypothèse des élections au niveau provincial ou même au niveau municipal, au niveau urbain et local, au suffrage indirect, n'est pas de nature à consolider notre démocratie. On connaît aussi à ces niveaux, si on organise des élections au suffrage indirect, le risque de manipulation, de corruption est grand. Alors les évêques demandent que les élections au niveau municipal, urbain, local se fassent par suffrage direct. Ceci, d'abord, pour consolider notre démocratie, mais aussi pour permettre à la population, au souverain primaire, d'exercer son droit reconnu par la Constitution. Alors, les évêques en appellent à la volonté politique pour la réussite totale de ces élections, dont dépend l'avenir de notre pays.
Monsieur l'abbé Léonard Saint-Eddy, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko en sigle. Nous venons d'écouter vos propos. Comment vous-même vous analysez le contenu de votre communiqué?
Il faut dire que l'enjeu est de taille. Comme disent les évêques, il s'agit de l'avenir, un avenir harmonieux, pacifique de notre pays. Et donc, on doit déjà remercier la CENI parce qu'elle a pris cette responsabilité en main. Elle a proposé, elle a fait des propositions, elle a avancé des hypothèses qui ne sont pas des thèses fermes et donc qui appellent au dialogue, au débat. C'est dans ce sens que les évêques mêlent leur voix à celle d'autres pour dire, eh bien, dans ces hypothèses, voilà, si on veut construire la démocratie, il faut privilégier le suffrage direct pour donner à la population, au souverain primaire, cette responsabilité d'élire directement ses dirigeants au niveau de la base et au niveau provincial.
Au point 5 de ces communiqués, vous demandez, donc vous évêques, vous demandez la tenue des élections provinciales au premier trimestre de 2015, donc dans exactement une année, et vous souhaitez que cela se fasse, vous l'avez dit, au suffrage direct. Or, la CENI estime que s'il faut organiser ces élections avant 2016, il faut recourir au suffrage indirect. Lorsque vous étiez en train de faire vos propositions, avez-vous tenu compte des raisons qui avaient été avancées par la CENI?
Absolument, absolument. Les évêques disent d'ailleurs qu'ils ont examiné la feuille de route. Il faut dire que l'hypothèse de la CENI présente à première vue quelques avantages sur le plan logistique, sur le plan financier, mais c'est sans compter avec le déficit de légitimité politique qu'elle infère et son impact dans le fonctionnement des institutions. Vous savez, si on relit l'histoire des élections aujourd'hui, on apprend certains, c'est juste pour argumenter un peu, certains sénateurs eux-mêmes demandaient, voulaient être élus au suffrage direct pour contrebalancer le poids de leurs collègues de la Chambre basse. Donc la proposition de la CINCO a l'avantage de tenir compte des contraintes budgétaires, on n'ignore pas cela, c'est pourquoi on en appelle à la volonté politique, on n'ignore pas cela, mais de tenir compte à la fois des contraintes budgétaires et de l'impérieuse nécessité, une nécessité pour moi incontournable, de laisser le souverain primaire exprimer directement sa volonté dans l'élection des députés provinciaux. Voilà. Et on sait aussi, dans le contexte de notre pays, comment les élections de certains sénateurs pour 2006, comment ça s'est passé. Et donc on sait que les suffrages indirects, pour le moment, présentent beaucoup de risques de manipulation et de corruption.
Au point 4 de ce même communiqué, vous recommandez l'apurement des arriérés électoraux et à cet effet au point 9, vous recommandez le couplage des provinciales et des locales. Déjà, certains experts estiment que organiser les locales est fastidieux, que c'est très complexe, mais on a l'impression que la CINCO n'a pas tenu compte du caractère complexe des élections locales.
Non, ce serait vraiment un manque de responsabilité que d'avancer des propositions sans tenir compte de ce que les autres avancent. Non, je vous assure qu'on a tenu compte. Et donc, la question, le communiqué de la CINCO est adressé en fait aux politiciens. La CENI est un organe technique, c'est une institution d'appui à la démocratie. Alors la question c'est, voulons-nous construire cette démocratie? Si nous voulons construire cette démocratie, eh bien, les parlementaires qui sont maintenant en vacances, ils doivent écouter ce que les uns et les autres disent et en revenant dire, si nous voulons construire cette démocratie, déjà à la base, qu'est-ce qu'il nous faut? Quels sont les moyens? Je prends un exemple encore pour argumenter. Vous savez, la construction d'une démocratie peut ressembler à la construction d'une maison. Il y a des règles précises, notamment tenir compte des fondations. Et en démocratie, ça s'appelle la participation citoyenne. Et donc, si l'on veut dire, bon, nous allons construire cette maison à la va-vite, et sans tenir compte des fondations, on peut construire, mais est-ce que c'est du solide?
Mais le suffrage indirect, c'est aussi la participation indirecte des citoyens.
Oui, absolument. Mais vous savez, pour le moment, à la base, prenons l'exemple de ce que réclament certains immigrés aujourd'hui en France, ils disent, nous vivons dans cette mairie, dans cette commune, nous connaissons la vie, est-ce que nous ne pouvons pas participer à élire les maires? Donc, à la base, surtout, c'est responsabiliser le souverain primaire en lui donnant la possibilité directe d'élire ses représentants. On peut le faire au niveau indirect, mais ici, prenons aussi en compte le contexte de notre pays, nous disons que ça représente beaucoup de risques de manipulation et de corruption. On peut épiloguer à ce sujet.
Oui, organiser ces élections au premier trimestre 2015 pour apurer les arriérés électoraux. Donc s'il faut tenir compte de votre logique, il faut attendre 2020, n'est-ce pas, pour commencer un autre cycle électoral. Et cela voudrait dire quoi? Que les évêques sont pour le prolongement du mandat de l'Assemblée nationale et du président de la République au-delà de 2016?
Absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, ils les disent au point 10, ils en appellent à la volonté politique et puis de nos gouvernants et à la mobilisation de toute la population congolaise pour que le processus électoral se passe dans la paix et la vérité, dans la transparence et le respect des délais constitutionnels.
Tout dépend de la... Votre proposition, les délais constitutionnels seront respectés? Bon, parce que là, vous demandez qu'on organise des élections provinciales et locales en 2015. Vous leur donnez un mandat de combien d'années?
Non, écoutez...
Vous donnez à ces institutions qui seront issues de ces élections un mandat de combien d'années?
La question, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que l'on veut. La question est adressée aux politiques, politiciens.
Est-ce que nous voulons construire cette maison commune qui s'appelle la République démocratique du Congo? Si tel est le cas, il faut prendre les moyens, il faut mettre les moyens. Et parmi les paramètres dont il faut tenir compte, les évêques attirent l'attention sur ce que nous appelons la responsabilité du souverain primaire d'élire ses représentants directement. Si les politiques voient cet enjeu et disent « ça c'est du solide pour l'avenir », alors mettons le paquet, prenons les décisions. Dès mars, à la rentrée, donnons des réponses rapides par rapport à ces enjeux. Cela est possible. Je crois que la CENI a essayé de montrer les difficultés qu'elle voit à partir de ce qu'elle a. Mais si on prend en compte l'enjeu décisif de l'avenir de la nation, qu'il faudrait bâtir tous ensemble, avec la volonté politique, on peut y arriver, à respecter les échéances légales.
Merci, Monsieur l'abbé Léonard Saint-Eddy. Professeur Dominique Werth, vous êtes expert en questions électorales. Comment vous analysez les différentes propositions des évêques contenues dans les communiqués qui ont été publiés hier lundi?
Mais écoutez, moi je pense que y a de toute façon des bonnes nouvelles dans cette déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo. La première, c'est d'abord le feedback. Et je pense que au niveau de la CENI, quand le président a lancé sa feuille de route et a déposé sa feuille de route sur la table, il est évident que c'est une feuille de route qui demande à avoir des commentaires, à avoir peut-être même des amendements, en tout cas à avoir un débat. Et ici, on a enfin un corps institué tout à fait légitime, même si lui n'est pas élu, au suffrage direct des catholiques qui sont dans le pays, mais il n'empêche que la légitimité de la conférence épiscopale nationale du Congo sur le commentaire qu'ils ont fait par rapport à la feuille de route du président proposée et déposée par le président de la CENI, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va enfin lancer le débat sur cette feuille de route et j'espère qu'il y aura d'autres corps constitués légitimes dans le pays qui vont eux-mêmes faire le même exercice que celui que la conférence épiscopale nationale.
Et donc c'est ça l'un des mérites de ce communiqué.
Je pense que c'est vraiment un des mérites. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul, mais au moins ça a le mérite d'avoir travaillé sur la feuille de route et d'avoir de donner son avis et de donner ses commentaires sur cette proposition de feuille de route, en tout cas de dynamique, de relance du processus électoral. Alors, deuxième bonne nouvelle, je pense que, en tout cas dans le communiqué, c'est la volonté de la conférence épiscopale de soutenir le processus électoral, y compris en mobilisant, parce qu'on sait bien que le budget national de l'État, dans la situation actuelle, ne permettra sans doute pas de pouvoir organiser les différents scrutins qui vont se dérouler d'ici 2016. Et donc, la volonté de la conférence épiscopale nationale du Congo à vouloir s'engager dans le processus, notamment en termes d'éducation citoyenne, et demandant à la communauté internationale, ce qui est évidemment un message fort, parce que la conférence épiscopale nationale du Congo a une légitimité internationale aussi, puisqu'elle représente la République démocratique du Congo dans la communauté internationale au niveau des catholiques du monde entier. Et donc, à partir du moment où on a cette commission qui nous dit à la communauté internationale, il va falloir quand même que vous bougiez un peu et que vous aidiez la République démocratique du Congo dans la relance du processus électoral, c'est aussi, je trouve, une bonne nouvelle. Alors je pense qu'il y a eu par contre une petite confusion, puisque moi si je me rappelle bien et si j'ai mes bonnes informations sur la feuille de route, je pense que le président de la CENI ne veut pas organiser un scrutin indirect, les élections locales et municipales. Il est très clair là-dessus, je pense. Il est attaché.
Il a plutôt parlé des provinciales, avec des députés provinciaux.
Des députés provinciaux. Mais je pense qu'on peut rassurer la commission électorale en disant que par rapport aux élections locales, qui n'ont encore jamais eu lieu dans le pays, C'est un scrutin qui n'a encore ni été organisé en 2006 ni en 2011. Donc ce sera le premier scrutin et il est évident que lui doit être au suffrage direct des électeurs et que ce sont tous les citoyens et les citoyennes congolaises et congolais qui vont bien entendu élire leurs représentants locaux directement. Alors maintenant, on a le débat, bien entendu, sur le scrutin, le changement du mode de scrutin proposé par la CENI, ou en tout cas envisagé par la CENI, au niveau des élections provinciales. Et là, je pense que le débat doit rester ouvert. C'est vrai qu'il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Je pense que M. Labbé, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale, l'a très bien rappelé il y a un instant. Il est évident que, d'abord, il va falloir passer, ne l'oublions pas, par une modification de la Constitution, puisque le scrutin direct des députés provinciaux est dans la Constitution et pas dans la loi électorale.
Voilà.
Ça veut dire qu'il va y avoir un débat important quand même dans les assemblées afin de pouvoir modifier cet article de la Constitution et de changer le mode de scrutin pour les élections provinciales du scrutin direct, ce qui est actuellement inscrit dans la Constitution, à un scrutin indirect qui serait éventuellement la solution qui serait prisée pour les prochaines élections provinciales. Alors, dernière chose vraiment très intéressante, c'est la notion de l'apurement du passif électoral. Je pense que la Conférence épiscopale nationale du Congo a mis le doigt sur une question qui pour moi est essentielle, et je peux vous dire que pour côtoyer, discuter avec des représentants de la communauté internationale qui sont établis ici en République démocratique du Congo ou qui sont en tout cas engagés dans le processus ici global dans un pays aussi vaste que la République démocratique du Congo, eh bien tout le monde dans la communauté internationale aujourd'hui est focalisé sur 2016 et est-ce que le président va faire un troisième mandat, pas un troisième mandat, il va modifier la Constitution, pas modifier la Constitution, y aura-t-il un référendum, comment est-ce que ça va se passer, est-ce que Joseph Kabila, en clair, va-t-il être encore là après le 28 novembre 2016 ? Je pense que c'est une question légitime qu'il faut se poser, mais la vraie question que la communauté internationale doit se poser, c'est justement l'apurement du passif électoral. En 2011, nous avons eu deux scrutins qui ont été volés, entre guillemets, puisqu'on n'a pas eu les élections provinciales et on n'a pas organisé les fameuses élections locales qui auraient dû être organisées pour la première fois en 2011.
En 2006, les locales n'ont pas été organisées.
Non plus. Et donc ici, la CENI, elle, je trouve qu'elle prend une bonne dimension, une bonne direction et une bonne dynamique en disant, ok, évidemment que 2016, tout le monde va commencer à se poser la question, est-ce qu'ils auront lieu, pas lieu, etc. Est-ce qu'il y aura un prolongement du mandat ou pas ?
Merci.
C'est une question tout à fait légitime, mais la vraie question, c'est comment est-ce que dès maintenant, avec cette nouvelle équipe qui a été nommée au mois de juin 2013, avec Monsieur l'abbé Malou, cette équipe-là, elle veut relancer avant 2016 le processus électoral. Et ça, je pense que la SENCO l'a très bien montré et c'est une très très bonne chose de l'avoir pointé.
Merci professeur. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Votre analyse par rapport aux propositions de la SENCO.
Je voudrais d'abord commencer par remercier la SENCO qui a eu le mérite de faire des propositions extrêmement intéressantes. Bien sûr, quand vous écoutez les acteurs politiques, chacun a son point de vue à émettre. Mais ce qui est bon dans les propositions de la SENCO, c'est qu'elle est très pragmatique et elle donne des points de vue qui sont assez bien argumentés. Je note là qu'il mentionne un certain nombre de points qui me semblent très importants. Le premier, c'est que jusque-là, il est fait constat qu'on a eu en fait une démocratie par le haut, une démocratie qui était uniquement préoccupée par la mise en place des institutions nationales et qui a relégué à l'arrière-plan les institutions donc locales et même provinciales aujourd'hui. Et donc, commencer par l'apurement des adhérés électoraux, comme ils le disent, serait à mon avis une idée qu'il faut creuser. Parce que jusque-là, tout ce qui préoccupe les politiques, c'est la mise en place des institutions au niveau national. Et pourtant, la démocratie doit se construire par la base. Elle ne doit pas commencer par le sommet. Le fait qu'aujourd'hui, on ait uniquement des autorités au niveau local qui étaient nommées a paralysé pratiquement la gouvernance au niveau local. Il faut absolument construire une démocratie en partant du bas et essayer de régler la vie du bas par des mécanismes démocratiques. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de débats au niveau du Parlement, on n'en a pas au niveau local. Et ça, c'est ce déficit démocratique qui est dû au fait que les élections ne sont limitées qu'au niveau national.
Professeur.
Mais ils veulent aussi régler la question de légitimité, parce qu'il faut dire que les institutions qui sont en place, et là on parle du Parlement provincial et du Sénat, eh bien, on se demande pourquoi on a organisé uniquement les élections au niveau de la présidence de la République et au niveau de l'Assemblée nationale, et on a oublié, alors que c'est des organes qui sont extrêmement importants dans la mesure où ils jouent un rôle essentiel de consolidation de la démocratie. Et donc, régler cette question de légitimité me semble une priorité. Et c'est là que les propositions de la CENCO, à mon avis, ont une plus-value. Mais au-delà de tout, il n'y a pas qu'au niveau national où la compétition du pouvoir doit être acharnée et valorisée. Il faut arriver à délocaliser la compétition du pouvoir au niveau local et accélérer la disparition des pratiques de nomination des autorités locales. Il faut que le pouvoir au niveau local se construise par le local et non par Kinshasa. Faute d'avoir organisé des élections, on a aujourd'hui des négociations de pouvoir au niveau local qui se concoctent à partir de Kinshasa. L'absence de valorisation du local par l'organisation des élections a créé, à mon avis, un vide au niveau de gouvernance, ce qui aujourd'hui se traduit par, évidemment, l'effacement pur et simple du local.
Professeur.
Mais il y a aussi la lutte contre la corruption. On a vu comment les élections de 2006 ont été organisées, surtout quand il s'agit du suffrage indirect. Nous avions suivi la radio Capi qui a relayé plusieurs pratiques de corruption. Et moi, je crois que revenir sur cette question précise, qui est une question de moralité publique, me semble très, très important.
Oui, professeur, vous pensez qu'il sera facile d'attirer les arriérés électoraux à la fin d'un cycle électoral? Nous sommes presque à la fin du cycle 2011-2016. Dans deux ans, on pourra organiser des élections présidentielles et législatives. Vous pensez que si nous avons des élections provinciales et locales en 2015, et cela pourrait vraiment régler ces problèmes d'arriérés électoraux?
Je crois que ça, c'est un travail que la CENI doit faire pour présenter à la classe politique un calendrier électoral réaliste. Et il me semble qu'ils n'ont pas encore exclu la possibilité que cela soit réalisable. Mais je voudrais là intervenir sur un autre aspect, c'est l'aspect du coût des élections. Quand vous regardez le coût des élections de 2006, c'était des coûts extrêmement élevés. Mais ce coût élevé pose un certain nombre de problèmes. C'est entre autres le problème de la rationalisation des dépenses. Quand vous regardez les dépenses qui avaient été consenties en 2006, avec des consultants internationaux qui venaient, qui déambulaient, qui passaient beaucoup de jours dans les hôtels 5 étoiles. Ça, c'est des dépenses, à mon avis, qui sont aujourd'hui inéligibles. Quand vous regardez le processus même de passation de marché, à mon avis, ce processus ne doit plus être opaque. Il doit être un processus qui permet de bien utiliser, de bien rationaliser les dépenses électorales. Et sur ce plan-là, il faudrait absolument que la CENI arrive à clarifier combien véritablement les élections peuvent coûter, si on peut les organiser tous.
Professeur, Matoumaïne Franklin de Bukavu au sud Kivu dit ceci: la CENI n'y est pas pour beaucoup, car sans les moyens et la volonté politique, la CENI ne peut pas faire des miracles. Tout est fonction de la volonté politique, car en lisant les budgets et les différentes communications du gouvernement, on ne sent pas la volonté politique pour parachever le processus électoral.
Oui, il peut avoir raison, mais attention, c'est la CENI qui communique avec le gouvernement, qui établit un état de besoin, et le gouvernement, dans la mesure possible, le budgétise. Et comme les élections sont prévues en 2015, il y a des opérations qui auront lieu à 2014, qui, à mon avis, doivent être budgétisées. Je ne sais pas combien à combien se chiffre le budget de la CENI pour cette année, mais de gros de budget sera pour l'année prochaine. Et là, il faudra que le gouvernement puisse tenir compte de cet aspect des choses.
Abbé Léonard Saint-Eddy, dans votre communiqué, vous dites que vous ne souhaitez pas que les élections locales soient organisées au suffrage universel indirect. Ça vient d'où? Parce que dans la feuille des routes présentée par la CENI à l'Assemblée nationale, il n'a jamais été question, n'est-ce pas, d'organiser les élections locales au suffrage indirect.
Les documents que j'ai avec moi de la Commission électorale nationale indépendante proposent à l'hypothèse numéro 1 élection au suffrage universel indirect des députés provinciaux, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des chefs de secteur et des bourgmestres par les conseillers de communes, des chefferies et des secteurs. Il est dit élection au suffrage universel indirect. Donc, des chefs de secteur, des bourgmestres, des conseillers urbains. L'hypothèse numéro 2 reprend élection au suffrage universel indirect des conseillers urbains, des chefs de secteur et des bourgmestres par les conseillers de communes, des chefferies et des secteurs. Alors donc c'est cela que nous avons pris en compte pour dire que nous, enfin les évêques disent nous proposons plutôt cette élection au suffrage direct des bourgmestres, des maires. Prenons l'exemple ici à Kinshasa. Si les habitants de la commune de Lingwala doivent choisir leur bourgmestre, ils savent qui ils peuvent élire. Mais s'ils doivent choisir seulement quelques conseillers, on sait que le risque de manipulation de ces quelques conseillers est plus grand. Et on sait aussi comment les choses fonctionnent au niveau de notre pays. On connaît des pressions qu'on peut faire sur quelques conseillers élus, eux, au suffrage direct, mais qui peuvent avoir des pressions pour, à leur tour, élire un maire qui serait l'imposition, enfin, de groupes de pression. C'est dans ce sens-là que les évêques disent, nous proposons l'élection des bourgmestres, des maires, des chefs de secteur au suffrage direct. Ils prennent en compte le document de la CENI. Je ne sais pas s'il y a là télescopage au niveau des compréhensions, mais en tout cas, hypothèse numéro 1, hypothèse numéro 2, parle d'élection au suffrage universel indirect des conseillers urbains, des chefs de secteur et des bourgmestres.
Monsieur l'abbé Léonard Saint-Eddy, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au sud de Kivu.
J'adore Edilima de Bukavu en province du sud Kivu. La déclaration rendue publique par la CENCO est une demande de trop à la pauvre CENI, car la crise de légitimité des élus provinciaux et territoriaux n'est pas orchestrée par la CENI. Oubliez qu'il y avait d'autres élections qui étaient restées en souffrance après les élections de novembre 2011. Plusieurs acteurs, dont la CENCO, s'étaient d'abord acharnés sur la structuration de l'ancienne CENI, qui pourtant avait déjà prévu le calendrier de toutes ces élections. Même l'actuel bureau de la CENI est sous collimateur de l'opposition qui l'accuse de partialité.
Monsieur l'abbé.
La CENCO ne met pas ici la CENI au banc des accusés. Et notre ami se trompe. C'est-à-dire que c'est la CENI elle-même qui invite au débat. Et c'était encouragé d'ailleurs. On avait noté un déficit de dialogue dans l'équipe, enfin, disons, qui venait de terminer. Mais ici, la CENI dit, voilà, vous me donnez du travail, je vous fais des propositions. Pour moi, si je dois réussir ce travail, voilà première hypothèse, voilà deuxième hypothèse. Et il appelle au débat. Et c'est dans ce sens que des corps, comme disait mon confrère, les professeurs, des corps constitués disent, bon voilà, nous entrons dans ces débats. Et je crois que la démocratie se construit par ce débat contradictoire qui est excellent pour un pays. Et donc, mon frère, celui ou celle-là qui a parlé, nous ne nous acharnons pas sur la CENI, bien au contraire, nous voulons aider la CENI à bien faire son travail en parlant en premier, en nous adressant en premier aux politiciens. Voilà.
Professeur Dominique Vert, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kinshasa.
Merci. donc Soulouvika Chadodo. Je suis à Kinshasa, depuis la commune de Mongafula. Je crois que la déclaration de la SENCO vaut son pesant d'or, car j'estime que les élections au suffrage direct constituent l'occasion pour le peuple de sanctionner ses mandataires positivement ou négativement. Cela constitue une meilleure façon de faire participer le peuple à la gestion de la chose publique et à l'amélioration de ses conditions sociales. Aussi, le suffrage universel permettra au peuple d'acquérir petit à petit la culture de la démocratie et de la défense de la Constitution. Modifier le mode d'élection voudrait dire réviser la Constitution avec tous les risques possibles. Nous savons très bien comment les élections au suffrage indirect se passent dans notre pays. Les électeurs sont livrés à la corruption par les candidats qui tiennent à n'importe quel prix à arracher les sièges. Nous devons tous, décideurs comme gouverneurs, avoir le courage de respecter les options prises dans la Constitution au risque de passer de révision en révision avec comme conséquence aboutir à des constitutions taillées sur mesure.
Professeur Dominique Wertz.
Bah écoutez, moi je pense que c'est évidemment la sagesse populaire qui parle avec cette auditrice et cette avocate, si j'ai bien compris. Et donc oui, bien entendu, il est évident que le suffrage direct garantit certainement une transparence dans le mode électoral et dans la dynamique électorale. Maintenant, il faut savoir quand même, pour revenir sur les bourgmestres et les maires, et donc sur une partie des élus locaux qui seront ou qui seraient élus de manière indirecte, donc par les conseillers urbains. Bon, il faut savoir qu'en Europe, c'est une pratique qui fonctionne depuis maintenant pas mal de temps. En Belgique, en France, il va y avoir les élections municipales en France, là, dans deux semaines. On va avoir, nous, les élections. En Belgique, il y a eu les élections en octobre dernier. Les bourgmestres des villes, même les grandes villes, ne sont pas élus par le citoyen. Mais c'est vrai qu'on peut trouver, avec un scrutin même indirect, on peut trouver des astuces tout à fait légales pour faire en sorte que ce soit quand même ceux qui ont le plus de voix au niveau des conseillers qui passent comme bourgmestre ou comme adjoint au maire ou comme maire d'une grande ville ici en République démocratique du Congo. Donc il y a moyen d'avoir des astuces. Ce n'est pas toujours tout ou bien le scrutin direct ou tout le scrutin indirect. Il y a moyen d'avoir des justes milieux qui font qu'on peut quand même en tout cas faire en sorte qu'on tienne compte du poids électoral des personnes qui vont être au scrutin indirect ou qui sont pressentis en tout cas à devoir passer devant un scrutin indirect.
Les évêques proposent le couplage des locales et des provinciales. Comment vous réagissez à cette proposition?
Oui, je pense que c'est évidemment, à première vue, ça va permettre de pouvoir sans doute faciliter tout ce qui est logistique, mais je pense que comme vous le rappeliez vous-même en début d'émission, le fait qu'il n'y ait jamais eu de scrutin local dans le pays, ça va être la première fois qu'il va être organisé, qu'il est quand même très complexe, très compliqué. Je pense que coupler les deux risque de quand même un tout petit peu brouiller les pistes. Moi, je pense, mais évidemment, c'est facile de le dire quand on est ici dans les studios de Radio Okapi. Moi, je pense que la démocratie a un prix et que le pays ici ne doit pas, à mon avis, faire l'économie pour des raisons d'échelle éventuelle des scrutins. Le renforcement, la Troisième République qui doit se renforcer encore aujourd'hui, va devoir demander des moyens très importants pour assurer un fonctionnement démocratique. Je pense qu'on n'y coupera pas et que de penser que si on coupe ou bien si on met en changeant les scrutins pour des raisons économiques, je pense que c'est un peu un faux débat.
Professeur Félicien Kabamba, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Liège en Belgique.
Jean-Dédier Minengou, Liège, Belgique. La déclaration de la SENCO exigeant la tenue des élections provinciales au suffrage universel direct est une demande noble dans un pays où la légitimité des institutions pose problème. Mais les fraudes ou les corruptions électorales peuvent surgir quel que soit le mode du scrutin adopté. Les élections de 2006 et 2011 ont été des scrutins directs pour les uns et indirects pour les autres. Mais cela n'a pas empêché ni le fraude, ni les achats des grands électeurs. La construction d'un Congo démocratique passe par l'organisation des élections transparentes qui, à leur tour, sont conditionnées par trois questions fondamentales dont il faut donner des réponses. La première question est celle relative à la crédibilité de la Commission électorale nationale indépendante. Laisser la CENI entre les mains des personnalités partisanes, ici accepter d'avance des élections bâclées, quel que soit le mode du scrutin adopté, qu'il soit direct ou indirect. La deuxième question est celle liée au règlement de contentieux électoraux. Quelles sont les instances judiciaires indépendantes habilitées à traiter les litiges électoraux? Ne pas prendre en compte cette question, c'est faire les lits des nouvelles institutions illégitimes. La troisième question est celle en rapport avec le déroulement des élections. Il est connu que les centres locaux de compilation de résultats qui échappent au contrôle des partis politiques sont des sites de falsification des résultats. La compilation des résultats au niveau de chaque centre de vote est une des solutions pour réduire les fautes. Toute notre attention devrait en principe être focalisée sur ces questions prioritaires.
Professeur Félicien Kabamba.
Je crois que c'est une intervention très pertinente qui, en fait, relève un certain nombre de défis à l'endroit de la CENI. L'un des défis, c'est que, en fait, quel est le gage que la CENI est un élément de neutralité et de confiance pour toutes les parties prenantes. Et jusque-là, quand vous écoutez les acteurs politiques parler, vous avez l'impression qu'il y a véritablement un problème de confiance qu'ils ont vis-à-vis de la CENI. Et il faut absolument que la CENI donne des bons signaux à l'endroit de toutes les parties prenantes pour créer ce capital de confiance. Et pour ce faire, il faut envisager le mécanisme, à mon avis, qui doit être mis en place du dialogue politique. Il faut une institutionnalisation de ce dialogue. Ce n'est que par le dialogue politique qu'un capital de confiance peut se créer. Mais il y a aussi un autre défi. C'est le défi de la création et du maintien d'un registre électoral crédible. Et tous, on sait que l'un des problèmes qui a dégénéré avec l'ancienne CENI dirigée par le Pasteur, c'était véritablement le problème de la fiabilité du fichier électoral, qui était devenu l'élément central de la querelle électorale. Et cette question, elle doit absolument être un défi important pour la CENI. Il y a également le problème qu'il a relevé, le faible niveau d'implication de la CENI dans la gestion des litiges électoraux. Quand vous avez regardé la CENI, donc ce qu'on avait appelé la CEI et la CENI, la manière dont les contentieux ont été gérés, vous allez sentir véritablement qu'il y a trop de faiblesses. C'est l'ensemble de tous ces défis qui ont été relevés. Il y a également un autre défi qui est celui du coût élevé des élections. Comment arriver à baisser ce coût à des niveaux raisonnables? Il est quasiment difficile d'accepter l'argument que les élections, parce que coûtant cher, il faut changer le mode électoral. Ça, véritablement, ça sera un argument difficile à être accepté. Mais de manière générale, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est tout à fait urgent de stabiliser les règles de jeu électoral. Les règles de jeu qui, aujourd'hui, sont pratiquement changeantes en fonction de conjonctures politiques. Non. Un pays ne doit pas changer les règles chaque fois qu'il y a des élections, chaque fois qu'on annonce des élections. Il faut les stabiliser.
Professeur, les évêques proposent la tenue des élections locales et provinciales dans le premier trimestre plutôt de 2015, quand on sait que la mandature actuelle se termine en 2016. Est-ce que là, il ne va pas se poser une question de la durée des institutions qui seront issues de ces élections?
Bon, bien entendu, il faut trouver un scénario. Est-ce que toutes les institutions vont avoir la même durée? C'est-à-dire, est-ce que le mandat de toutes les institutions va prendre fin au même moment? Ou bien, on peut considérer qu'il peut y avoir des étages en matière de mandat. Et donc, il y a telle institution dont le mandat s'est terminé. Alors, là, il faut trouver véritablement le scénario. Mais ce qui est bon, là, c'est que ce qui est bon dans ce que propose la CENCO, c'est qu'en fait, il faut absolument, dès maintenant, envisager de mettre fin à la question principale de la crise de légitimité. Les institutions que nous avons ne peuvent plus continuer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous posez la question du cycle électoral, mais il y a une autre question plus grave, c'est celle de la légitimité. Comment on peut continuer avec des institutions illégitimes? Ça, véritablement, c'est le mérite de la CENCO d'avoir évoqué ce genre de problème.
Monsieur l'abbé Léonard Santédi, que faire pour harmoniser les divergences des vues au sujet des prochaines élections ici en RDC?
Bon, d'abord, il faut un débat, il faut un échange.
Qui a commencé avec vos propositions?
Oui, qui a commencé. Bon, d'autres acteurs aussi de la société civile. Il faudrait aussi
même
que
même l'opposition.
Oui, il faudrait aussi que les politiciens puissent prendre la mesure de ce qui est en jeu, notamment là les deux chambres du Parlement à la rentrée parlementaire. Déjà pour la rentrée parlementaire de mars. Inscrire cela dans les urgences, parce qu'on voit aussi parfois on tire en longueur et on arrive à la fin de l'année et puis bon, la CENI n'a pas les instruments nécessaires pour travailler. Donc ce qu'il faudrait faire, donc inscrire cela dans les priorités pour le Parlement, mais de notre côté aussi, bon, il faudrait l'éducation civique électorale, l'accompagnement de la population de ces souverains primaires, comme disaient les collègues professeurs, la démocratie un prix. Donc il faut payer les prix de cela, la démocratie, mais nous maintenons pour la déclaration des évêques, comme disait aussi l'autre collègue professeur, c'est qu'il faut construire par le bas, dans la solidité, en donnant aux souverains primaires la possibilité d'élire directement ses représentants. Et pour la suite, je crois que nous tous, nous sommes embarqués dans le même train, la construction d'un Congo vraiment démocratique, avec des élections transparentes, apaisées, qui puissent augurer d'un avenir meilleur pour le pays.
Monsieur l'abbé Léonard Santédi, nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous pouvez conclure?
Oui, donc les évêques disent que l'Église, fidèle à sa mission évangélisatrice, va accompagner ce processus, fidèle à sa mission dans la prière, dans l'éducation civique et électorale, mais ils en appellent aux politiciens, ils en appellent à la communauté internationale, et en particulier ici à la MONUSCO, mais à toute la population, à tout le monde, de donner chacun sa contribution pour que ces élections, ces futures élections, puissent inscrire notre pays dans les registres des nations dignes et respectables, qui peuvent prendre en main leur destin, bâtir leur avenir.
Professeur Dominique Watt, que faut-il faire pour harmoniser les divergences des vues au sujet des prochaines élections ici au Congo?
Ben écoutez, moi je crois qu'il y a le président de la CENI, lorsqu'il a été élu et confirmé par le Parlement en juin 2013, avait mis en avant, d'ailleurs avec l'assentiment de la communauté internationale, trois éléments importants pour pouvoir relancer cette institution et relancer le cours et le processus électoral. Le premier point, c'était une architecture revisitée de la CENI. Le deuxième point, c'était évidemment un budget crédible. Le troisième point, c'était un calendrier fiable, et donc sur lequel on ne va pas revenir en cours de mandat. Je pense que, même si la CENI n'a pas encore véritablement 8 mois plus tard, rempli ces trois exigences qu'elle s'était assignées, mais je pense qu'on est quand même dans la direction, et que à partir du moment où on aura en effet une CENI qui aura été peut-être reconsidérée par tout le monde comme étant une structure indépendante qui va organiser le processus électoral de manière professionnelle.
Donc il faut crédibiliser la CENI.
Il faut crédibiliser la CENI, je pense, dans un premier temps. Et puis alors, comme le disait très bien la conférence épiscopale, c'est aussi aux hommes politiques et au paysage politique congolais de pouvoir prendre ses responsabilités dans cette dimension-là.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Comment faire pour harmoniser ces divergences des vues?
Oui, j'ai juste deux éléments. D'abord, les politiciens dans leur ensemble doivent devoir aider la CENI, qui est un outil de crédibilisation du processus électoral. Enfin, il faut institutionnaliser le dialogue politique. Les élections ne peuvent réussir véritablement que s'il y a un dialogue entre toutes les parties prenantes.
Merci, c'est la fin de cette émission. William Lungamba était à la technique. Kéline Kouté, Samuel Kachak, merci pour m'avoir aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe. Devant ces micros, Guy Maté, merci et bon suite de programme sur Radio Okapi.